Quelques remarques préliminaires avant de lire le texte biblique. Les trois textes que nous lirons sont tirés de la liste produite par la Ligue pour la lecture de la Bible à l'intérieur d'un livret qui s'appelle « La Bible en 6 ans ». Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce petit dépliant qui vous permet de lire la Bible en 6 ans. Si j'avais commencé aujourd'hui du haut de mes 60 ans, j'aurais déjà lu 6 fois la Bible en entier, ce que je ne suis pas sûr de pouvoir affirmer ce matin. En entier, j'entends, complètement de manière suivie. Et donc, chaque dimanche, il y a une proposition de 3 lectures qui peuvent ainsi dépanner le pasteur pour choisir les textes de sa prédication. Donc voilà. Vous voyez déjà apparaître le premier. La deuxième remarque, c'est que cette lecture sera faite à partir de la Bible Parole de Vie, qui est une traduction, Lucien en parlera bien mieux que moi, une traduction en français fondamental, hein, qui utilise la conjugaison au présent, avec des mots simples. J'en ai quand même corrigé un peu, je n'ai pas pu me retenir, mais qui évite des mots trop techniques, et qui permet donc une lecture toute fraîche. Donc voilà, c'est préliminaire. Donc maintenant, nous abordons à proprement parler la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, des versets 7 à 9. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Deuxième lecture. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout. » Vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Je passe directement au verset 23. Entre les deux, il y a un dialogue qui va se construire entre Dieu et ses créatures. Le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Troisième lecture, lettre de Paul aux Romains, chapitre 5. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don de la grâce de Dieu et la faute d'Adam.
Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don de la grâce de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a généreusement répandu sa grâce sur un grand nombre de gens. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur accorde sa grâce avec abondance et il les rend entièrement justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la grâce de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous recevons la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà les trois lectures d'aujourd'hui.
Bon, nous allons faire une grande promenade. Vous vous rendez compte que nous allons voir d'un seul coup d'œil la création, la chute et la rédemption. C'est les termes techniques que l'on retient pour structurer ce grand récit. Je vais le modifier légèrement pour l'intituler « La création, la rupture et la réconciliation ». Voilà, pour donner l'accent sur certains aspects du texte. Et si quelqu'un vous demande, ou si vous êtes visiteur occasionnel ce matin, vous souhaitez un petit peu connaître ce que nous croyons et ce que nous disons, nous allons nous poser la question, comment l'exprimer de manière assez simple. Donc, nous pourrions répondre, mais quelle est ma foi ? Ou en quoi je crois ? Ben, je dirais, ben, pour faire simple, je suis chrétien. Ou alors, si on reste sur l'idée de s'exprimer par rapport à des groupes de croyants, par rapport à des églises, on pourrait dire « je suis protestant ». Ou si on veut être encore plus précis, on pourrait dire « je suis évangélique ». La difficulté en se nommant ainsi, c'est que vous allez laisser à votre interlocuteur le soin de mettre toutes les informations qu'il possède lui-même sur les mots « chrétien », protestant, évangélique, il y a de grandes chances que sur évangélique, ils disent évangéliste, plutôt qu'évangélique d'ailleurs. Et donc, je vous propose une alternative pour éviter ce risque, d'imprécision surtout, c'est de répondre sur le fond, sur le contenu de votre espérance. Et là, on pourrait faire un tour de table, enfin il n'y a pas de table, mais on pourrait faire un petit... Vous vous exprimeriez comment de la manière la plus simple ? Ce n'est pas un exercice très facile, en fait. Vous diriez quoi ? Peut-être Dieu m'aime ? Dieu m'aime et en Jésus-Christ, il m'a pardonné. On a chanté beaucoup de choses de ceci. Comment on peut se débrouiller ? Quelqu'un qui votre collègue de travail, quelqu'un que vous avez rencontré dans les transports en commun, il ne connaît pas grand-chose, voire rien du tout. Comment s'exprimer ? Alors, ce serait bien, comme ça. Dieu même, il est venu me chercher. Il m'a, par Jésus-Christ, il m'a assuré de son pardon. La proposition de ce matin, elle va apporter, je l'espère, quelques éléments qui pourront vous aider si ça vous arrive. Eh bien, vous pourriez répondre, je crois à la création, à la rupture et à la réconciliation. Ça va faire un choc au début. Personne ne va vous dire, oula, j'ai posé une question bizarre apparemment. Ou, si vous développez un petit peu, il dit, eh bien, écoutez, je crois que toute l'histoire du monde et mon histoire se résume au fait que je crois que je suis créé par Dieu, que j'ai été éloigné de Dieu. On va voir la petite nuance là-dessus. J'ai été éloigné de Dieu et que j'ai été rapproché et réconcilié par Jésus-Christ. Ça me paraît un triptyque intéressant qui va peut-être être abordable. Enfin, après, il faudra trouver votre manière de l'exposer, mais qui va rendre abordable cette description de la foi pour à peu près n'importe quelle personne, dans le sens avec son arrière-plan, avec sa façon de ce qu'elle a appris. Oui, je crois que j'ai été créé, que j'ai été éloigné, pas que j'étais éloigné, hein, que j'ai été éloigné, et que j'ai été rapproché, réconcilié. Voilà le programme de ce matin, embrassé par ces trois textes, l'histoire du monde. Vous êtes prêts? On va continuer alors. Commençons par la création. On va forcément faire un survol, hein, bien sûr. On va essayer de... Voilà. La création. Je crois que ça vaut la peine de relire. Vous savez qu'il y a deux récits de création, ils sont facilement repérables. C'est le chapitre 1 et le chapitre 2 du premier livre de la Bible. Il y a d'autres textes qui parlent de la création, bien sûr, mais ces deux textes sont des textes fondateurs. Là, nous ne prenons qu'une petite partie de ces textes et nous relisons ce que nous avons lu tout à l'heure. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur plante un jardin dans le pays d'Éden vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Nous allons regarder la bonne nouvelle. Pour chaque point, nous verrons la bonne nouvelle et l'alternative, ou ce que j'ai appelé la stratégie d'évitement, c'est-à-dire l'affirmation biblique, la bonne nouvelle, et puis ce que les hommes ont trouvé comme alternative, comme moyen d'éviter, de déconsidérer éventuellement cette affirmation et de trouver une autre explication. Voilà. Donc nous aurons à chaque fois... Alors quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de ce texte, bien, c'est que je me situe. Je sais d'où je viens. Je connais mon origine. Cette révélation fait que je connais l'intention première du projet de Dieu. C'est la bonté, la beauté, la communion. Vous avez remarqué comment Dieu prend soin de préparer un coin spécial, un jardin. Ça soulève bien sûr beaucoup de questionnement ou peut-être d'interrogation. On se dit, mais quelle est la nature de ce texte, etc. Je ne peux pas l'aborder ce matin, par manque de temps principalement, et puis sans doute un peu de compétences, parce que là, il faut prendre le temps de profiter. On va en rester au très essentiel. Quelle est la bonne nouvelle de ce texte? Je sais d'où je viens. Je suis situé. Je connais les intentions de celui qui est à l'origine de ce qui est autour de moi, mais de ce que je suis aussi. Beauté, bonté, communion. Un peu comme si Dieu préparait un nid pour un oiseau, pour un oisillon. Ça donne cette impression. Voilà pour la bonne nouvelle de ce texte. Quelle est maintenant la stratégie d'évitement? C'est-à-dire... ou la version laïque de la cosmogonie. La cosmogonie, c'est un récit des origines. Comment est-ce que, ou avez-vous des idées sur ce que l'on dit des origines de l'univers autre que ce récit de Genèse? La parole est à vous. Si vous avez envie de dire un mot ou deux pour dire, oui, on dit ceci dans le grand public à propos de nos débuts. Vous avez une idée? Voilà, Lavoisier, hein, je crois. Voilà, ça c'était plutôt l'explication chimique, effectivement. C'est une constatation chimique, je ne sais pas si elle était si philosophique que ça, mais ça a été une grande constatation. Alors oui, le hasard, le Big Bang, oui, on en parle beaucoup aussi en ce moment. L'évolution, tout à fait. En fait, quand on pose des questions, quand un prédicateur pose une question, il attend la réponse qu'il... Voilà. Donc maintenant que je l'ai... Bon. Mais non, vous aviez peut-être encore un mot à dire. Quelqu'un avait une idée sur une explication?
Oui, les
Il y a des extraterrestres, absolument.
Tout à fait.
Ah, c'est un monde, c'est super. Oui, j'avais oublié les extraterrestres. Puis il y a les dieux aussi, hein. Il y a tout un ensemble, voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Pourquoi ? Parce que dans nos sociétés occidentales, c'est enseigné. Et donc, je me suis rapproché de spécialistes dans ce domaine. J'ai reçu quelques informations complémentaires. Je nomme Elisabeth. Peut-être elle est là, ce matin ? Oui, voilà. Je lui ai téléphoné hier. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce qu'il en est, là, dans l'évolution ? Elisabeth enseigne, donc... au collège. Voilà. Donc elle m'a bien tout décrit, et je suis mauvais élève parce que je n'ai peut-être pas tout bien retenu, mais ce que j'ai retenu, c'est que c'est un système scientifique, une tentative d'explication à partir de données matérielles, on va arrêter Elisabeth, hein, qui permettent donc de donner une explication cohérente à ce que l'on voit. Cette approche-là n'a pas prétention à donner le pourquoi ou le fin du fin de l'affaire. C'est plutôt comment ça s'est produit et à partir de là, comment on peut construire un système à peu près cohérent. Alors, c'est pour ça que ça m'a éclairé, parce que je me suis dit, peut-être que ce n'est pas l'évolution le problème. Peut-être que c'est la façon dont on se sert de l'évolution pour apporter une justification à l'absence de Dieu. Autrement dit, à partir de la théorie de l'évolution, qui reste une théorie, on pose le dogme du matérialisme. Le ciel est vide, il est absent de Dieu ou des dieux, il n'y a aucune intervention extérieure à ce que nous constatons, et tout est matériel. Voilà, pour résumer, hein, c'est une des pistes qui va ensuite conditionner la suite. Donc, nous nous trouvons là devant quand même une situation difficile à vivre, peut-être, surtout pour nos jeunes, et pour moi aussi, hein, et puis même pour les vieux, après tout. Comment articuler tout ça ? Là encore, c'est tout un sujet en soi, et je suis loin d'être hyper pointu sur ce sujet. Mais je constate qu'effectivement, l'explication scientifique permet facilement, peut-être, de se diriger vers... Mais vous voyez bien, on constate quand même que le ciel est vide et que tout est matière. Et plus on avance, plus on s'aperçoit que... On verra le chapitre suivant. Donc, au commencement, il y a Dieu, il y a l'homme, et l'homme n'est pas Dieu. Voilà comment on pourrait résumer cette première partie. Voyons maintenant la deuxième. Relisons Genèse chapitre 3. La rupture. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme : Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ? La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront le jour où vous en... » Pardon, vous ne mourrez pas, « Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari, qui est avec elle, il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus, ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. C'est l'arrivée du Seigneur pour un dialogue avec ses créatures. Verset 23, « Le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur Dieu a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden
Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie.
Même chemin pour cette deuxième étape, la création, la rupture, la réconciliation. Nous sommes à la rupture. Quelle est la bonne nouvelle dans ce texte? Car il y en a une. C'est un texte qui annonce une vraie bonne nouvelle. Pas facile. La bonne nouvelle pourrait se résumer comme cela: je sais ce qui ne va pas. Voilà. Nous avons la révélation d'où vient le problème. J'ai vécu le mois dernier une expérience assez insolite. J'ai vu mon neveu arriver chez moi avec un petit coffret. Il s'est assis à la place du conducteur. Il a ouvert cette valise, qui s'appelle une valise Diag. Il a branché le fil dans une prise de la voiture. Il m'a regardé, enfin, il a appuyé sur le bouton. Pardon, il ne faut pas que j'appuie sur des boutons. Je suis où là? Voilà. Voilà. Il a appuyé sur un bouton de sa valise et il m'a regardé. Il a dit: voilà les problèmes qu'il y a dans ta voiture. Il y a le clignotant avant droit qui ne marche pas. Je lui ai dit: ça, j'ai vu. Je n'ai pas besoin d'une valise Diag pour ça. Il m'a dit: le capteur ABS de la roue arrière gauche ne fonctionne pas. Ah! Ah, c'est pour ça qu'il y a une lumière ABS sur mon écran, je n'avais pas fait trop attention. Et il me dit: il y a aussi un capteur au niveau des bougies de préchauffage qu'il faut changer. Ok. Et il me regarde, il me dit: il y a encore une liste là, je continue. J'ai dit: non, je suis dans le déni avec mes problèmes de voiture. Voilà la bonne nouvelle. Pour ma voiture, il existe un outil, on branche, on appuie sur clic et on voit où ça ne marche pas. C'est Luther qui disait: j'aime mon péché. Non pas j'aime pratiquer le péché, mais j'aime voir mon péché. J'aime voir parce que quand je le vois, je peux le nommer, et quand je le nomme, je peux le confesser. J'ai entendu dire qu'il y a des assemblées qui organisent des moments où chacun peut librement témoigner de quelque chose qui ne s'est pas passé comme il fallait cette semaine passée. C'est-à-dire ce qu'on appelle en langage chrétien un péché, une faute. Et il paraît qu'il y a des personnes qui se lèvent ou pas, mais en tout cas qui expliquent. Voilà, cette semaine. Et après cela, toute l'assemblée, elle applaudit. On fait ça? Je vois des têtes. Non. On peut déjà applaudir ceux qui disent non, parce qu'au moins ils reconnaissent que voilà, c'est pas brillant. Non, c'est pas brillant. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que nous avons nommé le problème.
Comment pouvons-nous développer cette identification?
Je dirais de manière simple, l'envie d'être Dieu, n'est-ce pas? Au commencement, il y avait Dieu, il y avait l'homme, et l'homme a voulu devenir Dieu. Voilà, c'est ça la façon dont je l'ai résumé. À la suite du commencement, il y a Dieu, il y a l'homme, et l'homme a voulu se faire Dieu. Voilà, c'est bien identifié. La valise Diag a renvoyé un signal. C'est très court, ça mériterait beaucoup de développement. Il y a eu énormément de débats théologiques pour savoir cette rupture, cette chute, de quelle hauteur elle est, de quelle profondeur, qu'est-ce que l'homme a perdu, qu'est-ce que l'homme n'a pas perdu. C'est considérable, c'est très justifié, mais on ne va pas le voir ce matin. Mais on le simplifie comme ça. L'homme a voulu se faire Dieu. La conséquence, c'est qu'il est parti en exil. Dieu lui-même a chassé, le mot est fort, il a chassé l'homme de l'endroit où il se situait, où il était bien là où Dieu l'avait voulu. Avez-vous remarqué que cet espace, le jardin d'Éden, il est nommé, il a un nom, il est décrit.
Mais quand Dieu chasse l'homme de cet endroit, qu'on a appelé le paradis, il l'envoie à l'extérieur de cet endroit. Mais il ne nomme pas le lieu de l'exil. Ce lieu de l'exil n'a pas de nom. C'est un désert, c'est un rien du tout. Ce n'est pas l'endroit de la communion avec Dieu, là où toute son attention a présidé à l'aménagement de ce lieu. Nous sommes en exil. Alors quelquefois on parle de tel pays ou de telle région comme un petit paradis. Tous nos endroits sont des exils. Nous sommes tous des exilés. Et là, c'est une bonne nouvelle. Parce que nous pouvons appeler un chat, comme on dit vulgairement. Quelle est la stratégie maintenant, la stratégie d'évitement? Quand on ne veut pas de cette explication, qu'est-ce qu'on construit comme raisonnement? Ça, c'est plus difficile. Vous avez une idée? Les anthropologues, les sociologues, les quoi d'autre, des spécialistes réfléchissent. Pourquoi le mal? Pourquoi l'homme ne fonctionne pas toujours comme on aimerait qu'il fonctionne, mais qu'il passe son temps à s'entretuer, à se faire souffrir? Comment on explique ça? Quelle est l'origine du mal pour quelqu'un qui n'accède pas à la révélation biblique? Vous avez une petite idée? Un mot? Là? C'est sa nature, effectivement. Bon, c'est une réponse facile, parce que, bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Bon. Mais c'est sa nature, dans le sens où c'est naturel. Et ça, c'est intéressant comme réponse, parce que ça renvoie à l'idée que, quelque part, dans son corps, par exemple, on va finir par trouver ce qui ne marche pas. Et on est en train de construire des valises Diag pour aller brancher. Peut-être un jour, on aura ça. Tiens, vous pourrez acheter une valise Diag, vous mettez un casque et vous dites, tiens, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ah, le gène 227, ah, il n'est pas bon celui-là, etc. C'est à peine une fiction. On travaille sur les gènes pour les enlever, pour les remplacer par des bons, etc. Donc c'est une vision matérialiste qui vise à réparer ce qui ne marche pas. Donc un monde très très mathématique, très très mécanique, très matériel. Et surtout, la mort est naturelle, pour reprendre votre adjectif. Vous avez remarqué comment on considère que la mort est naturelle? Et bien ça, c'est aussi une bonne nouvelle. La mort n'est pas du tout naturelle. Elle est une horreur qui n'a jamais fait partie du plan originel de Dieu. Jamais. Cette rupture a eu pour conséquence une dégénérescence et inéluctablement la mort, parce que la vie vient de Dieu, et quand on est séparé de Dieu, on en meurt. Donc la mort, eh ben, elle est naturelle, c'est comme ça, on va juste essayer de travailler à trouver les facteurs qui font que l'homme meurt, et on va lui supprimer, on va trouver l'homme immortel. On y travaille activement, il y a le transhumanisme, il y a toutes sortes de choses de ce genre-là, il existe même une imprimante 3D biologique. C'est de première main, j'ai cette information. Ma femme voyageait avec une biologiste qui était en colloque à Marseille. Des spécialistes israéliens ont conçu, sur un gel nutritif, ont conçu une imprimante 3D qui fonctionne, qui construit des tissus. Le plus dur, il paraît que c'est les vaisseaux. Mais bon, ils ont leurs problèmes, mais ils y arrivent, ils travaillent, ils construisent. Donc vous demandez un muscle, vous demandez une rétine, vous demandez, voilà. On est là. On est là dans la réparation, dans le rétablissement. Mais la mort n'est pas naturelle. La mort est le résultat d'une rupture et elle touche tous les hommes. Donc voilà pour ce deuxième point. À la suite du commencement, il y a Dieu, il y a l'homme et l'homme a voulu se faire Dieu. Voyons maintenant la réconciliation. Relisons ce chapitre de Romains 5, qui est un peu difficile d'accès. En fait, ce n'est pas Romains 5, c'est le verset 12, le verset 14, 15, 17 et 21. J'ai pris pour essayer de rester le plus accessible possible. C'est un texte très dense, qui amène beaucoup d'idées. Donc là, on va essayer encore une fois de le ramener à des choses, à notre dimension, dans un premier temps, ou dans la dimension d'une prédication. Je relis Romains 5, verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Adam représentait celui qui devait ou qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don de la grâce de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don de la grâce de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a généreusement répandu sa grâce sur un grand nombre de gens. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur accorde sa grâce avec abondance et il les rend entièrement justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même, maintenant, la grâce de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous recevons la vie avec Dieu, pour toujours, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Où est la bonne nouvelle ? Oui, c'est facile. Là, nous n'avons pas de difficulté, nous connaissons bien ce chapitre-là. La bonne nouvelle ici peut se résumer à « il y avait un deuxième Adam ». Ce n'est pas une idée très répandue dans le Nouveau Testament. Je crois qu'il y a deux passages qui font allusion, sauf erreur. Celui-là et un autre dont je n'ai pas vérifié où il est. Donc, il y a un deuxième Adam. Le premier Adam communique la mort. Le deuxième Adam, Jésus le Messie, communique la vie, sa vie, la vie de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Le péché, la mort, la justice, la vie, le cœur du projet. Alors maintenant, je vous propose une petite fiction pour développer un peu cette réconciliation. Vous connaissez le récit que nous font les évangiles sur Jésus, comment il marchait en Judée, en Galilée. Il rassemblait du monde. Il y avait des foules immenses, il y avait jusqu'à 5000 personnes, au moins, enfin 5000 hommes, parce qu'on comptait les hommes seulement à l'époque. Donc 5000, peut-être pour plus 5000, plus les enfants, ça fait 10-15 000 personnes l'écoutaient sur les collines au bord du lac de Galilée. Eh bien, la fiction commence là. Jésus leur dit, « Venez, suivez-moi. » Et Jésus se met à marcher et il va vers l'est. Il marche pendant longtemps dans le désert. Jésus prend soin d'eux, il leur donne la nourriture, de l'eau. Ils arrivent dans un pays lointain à l'est. Et là, il y a comme une lueur à l'horizon, de plus en plus intense. Et plus ils s'approchent, plus ils découvrent que cette lueur intense, flamboyante, c'est en fait des chérubins. Et ces chérubins agitent leurs épées dans tous les sens. Jésus arrive devant les chérubins et il dit « baissez les épées, écartez-vous. » Et Jésus dit à ceux qui suivent « entrez. Entrez dans le jardin d'Éden. Vous installez, après vous irez chercher vos proches. » Pourquoi Jésus n'a pas fait ça ? Où est le problème ? Nous avons vu la cosmogonie, les origines, d'où nous venons. Nous avons vu comment tout a été cassé. Nous sommes sortis d'un jardin qui était le projet parfait de Dieu pour l'homme. Nous sommes sortis de là. Chassé en exil, devenu mortel. Et voilà que Jésus vient et dit « Je vous sauve ». Logiquement, il aurait dû partir vers ce jardin d'Éden et tout réparer. Oui, et nous alors ? Quelqu'un me dit « Bah oui, mais nous là, il y a ça ». Mais Jésus va répondre de manière surprenante à ses disciples. À un moment, il est question d'itinéraire, d'aller vers... J'ai rien fait. Voilà, la réconciliation. À la fin du commencement, il y a Dieu, il y a l'homme, et Dieu s'est fait homme. Et là, Jésus va répondre à des disciples qui s'inquiètent où ils vont. Hein, c'est Jean 14, un peu Jean 13, Jean 14. Je cite de mémoire. Non, c'est pas bien cité de mémoire. On va prendre le temps de le... parce que c'est... Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Et Pierre donc continue. Jésus rassure ses disciples, « Ne soyez pas inquiets. » Le chemin, et il dit à ses disciples, « Le chemin qui conduit où je vais, vous le connaissez. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Et là, Jésus répond, « Thomas, je suis depuis longtemps avec vous. » Pardon. Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc voilà la porte du Nouvel Éden. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Le salut est là, il est à la porte. Il est dans nos cœurs. C'est l'appel de Dieu. Je suis le chemin. Je suis la porte. Entrez par moi. Quelle est notre foi? Quelle est notre raison d'espérer? Elle est là, dans ces trois mots, dans ces trois œuvres. Deux œuvres de Dieu et même trois œuvres de Dieu. La première, la création. La deuxième, la rupture. Hein, souvenez-vous, Dieu chassa. Et nous supportons cette condamnation. Hein, trois œuvres, la rupture et enfin la réconciliation. J'ai pas parlé de l'alternative pour le salut. Vous avez une idée? Je crois qu'on va laisser tomber là. On a entendu de belles choses en réécoutant l'Évangile. Ces trois bonnes nouvelles. Ces trois bonnes nouvelles nous permettent de lever les yeux vers notre Créateur et notre Sauveur, vers cette communion renouvelée qui fait que nous sommes dans une nouvelle vie qui ne fait que commencer. Il y a dans le texte de Romains des affirmations incroyables. J'utilise le mot incroyable au sens premier, c'est-à-dire pas croyable. Si nous les recevons avec, comme d'habitude, on va dire mais non, ça n'a pas de sens. Prions Dieu que le vent léger qui a soufflé ce soir-là dans Éden souffle dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne appliquer ces paroles pour nous faire saisir que par Jésus-Christ, nous sommes rois. C'est Romains 5. Hein. Nous sommes rois avec lui. Nous sommes vivants. Nous sommes dans un endroit qui est 10 fois plus, 100 fois plus réussi que ce jardin d'Éden. Voilà l'espérance des chrétiens. Alors, reprenez ça pour vous-même d'abord, avant de le partager à d'autres. Mais si vous avez l'occasion de le partager à d'autres, mais voilà, faites-le. C'est la grande histoire du monde, celle qui nous porte et celle qui va nous porter encore longtemps, par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons maintenant chanter un chant en conclusion qui va récapituler ou prolonger ce que nous venons de voir.